cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Pierre de Bettman.
Bonjour Cobuzz.
Vous publiez un nouvel album qui s'appelle Go, j'ai plus loin musique. Cette fois-ci c'est en quartet, vous qui avez tendance à changer de formation, parfois trio, parfois quintet, parfois sideman, etc. On va pas en parler de tout ça. Go, c'est comme le Go de Dexter Gordon?
C'est une très bonne question. À l'origine non, et j'ai même été jusqu'à oublier cet album, ce qui est absolument incroyable. Go, c'est le nom d'un de mes morceaux, mais j'adore Dexter, donc je peux pas le nier. Il y a eu un phénomène
c'est
freudien, assez étrange.
C'est totalement...
Exactement. C'est un truc très étrange qui s'est produit. Le fait que j'ai oublié au moment où la question se posait du choix du titre de l'album, le fait que ça fait partie des mystères de la vie que je serais pas capable d'expliquer, même au micro de Cobuzz. Voilà. Donc Go, c'est aussi d'abord le titre d'un morceau que j'ai écrit. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le pour continuer toujours sur cette thématique, l'album de Dexter, qui date donc des années 60, l'album ne comporte pas de morceau qui s'appelle Go. Alors moi, j'avais juste écrit un morceau qui s'appelait Go, qui est une occasion aussi pour moi de rendre un hommage à quelqu'un avec qui j'avais travaillé dans une vie antérieure, si j'ose dire, que cet homme s'appelait Jean-Christian Fauvet et qui était un passionné du jeu de Go. Donc moi, comme on en avait parlé, je me suis toujours dit qu'il fallait que je me mette à jouer à ce jeu-là. Et ce que je n'ai toujours pas fait, mais j'en ai quand même appris les principes.
Composé un morceau qui s'appelle Go, c'est un bon début.
Voilà, exactement, c'est une première étape.
Ouais. Donc cet album à 4, il y a avec vous David Elmalek au saxophone, Vincent Artois à la basse et Franck Aguillon à la batterie. Il arrive à quel moment dans votre dense et riche carrière cet album et même ce quartet?
Il arrive à un moment qui est peut-être... un moment de recentrage pour moi, je dirais. Ça serait bon, peut-être un bon terme. Effectivement, j'ai conduit des projets à géométrie un peu variable et un peu plus important que peut-être que l'effectif de la majeure partie des projets de jazz. Donc effectivement, j'ai fait un projet depuis les années 2000, j'ai fait un projet en quintet de disques et puis en septet de disques, et toujours avec cette même famille de musiciens. J'ai voulu un peu le recentrer en quartet après avoir je veux pas en faire un grand cas, mais il se trouve que j'ai arrêté de jouer pendant 6 mois l'année dernière suite à un accident que j'ai eu au bras, et que du coup ça a un peu précipité le changement, je dirais. Voilà, donc je me recentre sur un projet que j'ai voulu forcément un peu plus souple qu'une formule à plus de gens, dans lequel je mets pas mal l'accent toujours sur l'écriture musicale, parce que ça c'est un sujet qui m'intéresse pas mal, mais j'espère d'avoir laissé suffisamment de liberté dans l'écriture musicale pour qu'on puisse jouer au sens où le jazz l'entend traditionnellement, donc vraiment avoir une liberté d'improviser sur ce matériau de base, quoi.
Pour le pianiste de jazz que vous êtes, quelle valeur il a le quartet en général?
Oh, c'est une belle formule, c'est une formule qui est quand même assez pratiquée, peut-être moins par les pianistes que par les instruments monodiques comme les soufflants ou les guitaristes qui se posent la question de savoir comment quel est le meilleur écrin qui entoure leur propos. J'aime bien l'idée d'avoir, c'est bon, la rythmique, piano, contrebasse, batterie, et que en plus c'est très lié avec la proximité que j'ai avec David Elmalek, qui est un saxophoniste époustouflant de mon point de vue et dont je suis très proche. Cette espèce de dialogue un peu privilégié de deux instruments mélodiques rajoute, je trouve, une espèce de richesse, de possibilité, de développement, peut-être, que ne permet pas le trio.
Et au niveau de l'écriture, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, étant d'une perche certes évidente,
ouais, ouais.
L'écriture c'est quelque chose pour vous dans votre démarche de musicien qui est assez centrale, voire une sorte de point de départ de beaucoup de choses.
Ouais, c'est vrai, c'est super de l'avoir relevé. Je dirais que le fait d'avoir un deuxième instrument mélodique soliste, en figure de proue, enfin en avant, voilà, et permet juste de, effectivement, en matière d'écriture, de varier les choses. C'est-à-dire que souvent, quand on écrit un morceau de jazz, on écrit bon un thème, on espère que le thème soit suffisamment un composante un peu suffisamment lyrique pour être reconnaissable, chantable. Chantable, c'est un bon critère, je trouve. Moi, je compose souvent en chantant. J'écris souvent en chantant. J'adore chanter seul dans mon studio, ou sous ma douche, d'ailleurs. Et du coup, voilà, quand on écrit un morceau dans le vocabulaire du jazz, on se dit, bon, voilà, j'essaie de trouver une mélodie, une bonne structure harmonique, une bonne structure, voilà, qui me permet, la structure en question me permet de rebondir pour improviser, voilà, pour improviser sur la structure de base du thème. Bon, ça, c'est le jeu de base qui s'est développé depuis une centaine d'années au gré des différents styles et des différents de courants qui y a eu dans l'histoire de cette musique, qui est quand même déjà, à mon sens, extrêmement riche par son passé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que je trouve ajouter un autre instrument un autre instrument mélodique dans la réflexion d'écriture, ça permet aussi de dire, par exemple, bon, j'écris un morceau, mais je vais décider que le piano improvise sur telle partie, pas forcément tout, et le sax improvise sur telle autre partie du morceau, où j'extrais du thème de départ une partie que je vais attribuer au solo du saxophone. Donc à charge au saxophoniste de développer quelque chose de plus personnel possible et de plus riche possible sur une partie sur laquelle nous nous sommes mis d'accord, qui n'est pas forcément la même partie que le pianiste ou que le contrebassiste ou que le batteur, etc. Enfin voilà, j'ajoute une voix qui permet de faire ça. Voilà. Par rapport je viens de répondre de vous répondre du quartet par rapport au trio. Voilà, c'est le quartet permet des possibilités d'improvisation, des possibilités de jeu qui sont peut-être plus riches encore parce que on se sert d'une partie du matériau écrit pour l'emmener ailleurs.
Voilà. Ce qui est intéressant avec vous, c'est que justement il y a cette facette de l'écriture qui, comme vous venez de le confirmer, est essentielle, donc quelque chose de très solitaire finalement.
C'est vrai,
de départ.
C'est
vrai. Et en même temps, vous vous exprimez quasiment essentiellement, exclusivement à plusieurs.
Ah, mais ça, c'est un
donc,
point absolument essentiel de la musique. C'est vraiment un super point. Ce qui est fantastique avec la musique, c'est que la majorité de l'occasion qu'on a de le faire est une occasion collective, à plusieurs. Et ça, moi, c'est une forme d'art qui a vraiment ça en elle.
Vous ne concevez pas donc votre écriture en solo ?
Alors, je fais très rarement des concerts en solo. Ça arrive, mais...
Comment vous l'expliquez, ça ? C'est un choix, c'est volontaire, c'est votre façon d'écrire ?
Bon, ça correspond... Déjà, ça correspond à l'histoire de cette musique est faite comme ça. Quand on regarde l'histoire de la musique, c'est quand même... On parle d'orchestre. Alors, c'est vrai que les pianistes sont moins aguerris, a priori, parce que quand ils commencent à apprendre ce piano, que ce soit dans un cadre super académique, avec... ou de façon un peu plus autodidacte, il y a une pratique solitaire du piano, parce que le piano est un instrument très orchestral, il y a déjà énormément d'informations,
c'est un
orchestre à lui tout seul, donc ça peut suffire à lui-même, mais quand même le fait d'être dans ce, si on est piqué par le jazz, un peu ce qui a été mon cas assez tôt, c'est quand même excitant de se retrouver avec un batteur, une section rythmique, d'autres instruments mélodiques. Enfin, ça renforce un peu ça démultiplie le propos. On pourrait presque dire que c'est un tout qui dépasse la somme des parties, hein, pour employer des vocabulaires un peu à la mode et un peu holistique, comme c'est un peu mode de formuler les choses comme ça, mais c'est comme une réalité. Quand on s'assemble, il y a un autre dans la communion, il y a un autre truc qui ressort de ça, quoi. C'est ça ce qui est excitant. Voilà, dans le fait de partager les choses. Et c'est vrai, donc moi j'essaie de jongler comme le travail d'écriture est un travail solitaire. C'est un travail de préméditation, d'une certaine façon, au sens presque étymologique du terme. On médite chez soi, et avant de proposer le résultat de cette méditation pour une communion.
Est-ce que l'écriture, la rigueur qu'elle demande, c'est quelque chose qui vous vient de votre formation initiale? Vous avez une formation classique, je crois, au début.
Oui,
j'ai commencé par Bach avant de commencer par Monk, on va dire.
Grosso modo, c'est vrai, bien que je ne l'ai pas fait dans les conservatoires, mais c'est vrai. J'ai eu la chance de rencontrer une prof qui est devenue un peu une amie de la famille, quasiment un membre de la famille, et qui m'a suivi de 6 ans à 23 ans. Ça fait quand même beaucoup, quoi. J'avais fait ce calcul là un jour. Et puis même après, on était resté évidemment très liés. Elle n'est malheureusement plus de ce monde. Est-ce que l'intérêt pour l'écriture vient de la musique classique? Oui et non. Je pense que... oui et non, parce que évidemment, la musique classique, on l'apprend avec des partitions, donc de façon... l'aspect oral de la tradition est moins prégnant, bien que dans le cas précisément de cette prof-là, il y avait quand même beaucoup de choses, je trouve, qu'elle me faisait sentir. Il y avait quand même un truc très profondément physique dans la façon de qu'elle a eu de m'apprendre la musique. Et je dirais aussi, à contrario, je trouve que le jazz, dans ses dernières ramifications, a quand même fait la part belle à l'écriture. Il y a quand même une partie des développements contemporains de cette musique qui, tout en gardant le swing, quoi, le côté un peu... ce rapport au temps qui rend le jazz si spécifique par rapport à la musique classique, à mon sens, pour autant a aussi développé une préoccupation de l'écriture dont je ne suis loin d'être le seul représentant. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment penchés sur le fait d'avoir un propos personnel aussi par l'écriture.
C'est un moyen aussi, ça cet intérêt pour l'écriture, et continue de répondre un peu à ceux qui peuvent éventuellement dire que le jazz est une musique de répertoire.
Alors, je suis pas sûr de vouloir prendre le contrepoint, le répertoire, grosso modo, ce sont les standards. Donc, est-ce que je veux prendre tant que ça le contrepoint de l'attachement aux standards? Je suis pas sûr. C'est-à-dire, moi, je suis très attaché aux standards parce que, évidemment, peut-être d'un point de vue peut-être fondamental, je pense qu'on a besoin d'un attachement à l'histoire, et je pense que les standards sont toujours un matériau qui permet beaucoup beaucoup d'expression personnelle. Dans cette espèce de paradoxe probablement éternel, c'est dans la connaissance de oui, enfin bon, faut peut-être le formuler de façon extrêmement simple, dans la connaissance du passé que recèlent les perles du futur. Je suis évidemment pour autant très attaché au présent, donc là tout est dit, mais je dirais que c'est peut-être une moyen plutôt de prolonger la musique de répertoire. Voilà, le répertoire est une chose... qui ne se suffit pas à soi-même, mais à prendre en compte. Voilà, je dirais ça comme ça.
Dans ce même registre d'idées, de quel œil vous regardez justement vos... c'est essentiellement d'ailleurs des pianistes souvent, vos confrères, puisque les standards qu'on venait d'évoquer étaient la musique populaire de leur temps. Ces pianistes actuels qui, par exemple, s'amusent sérieusement à utiliser des chansons d'aujourd'hui, que ce soit du Radiohead ou autre, pour les traiter, leur donner un traitement jazz.
Ah ben, quand c'est bien fait, moi j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je trouve que c'est vraiment assez... pertinent, enfin c'est un mot que j'aime pas beaucoup parce que c'est trop, ça juge trop, mais mon regard est souvent très admiratif. D'abord parce que la proposition de base, il y a quand même beaucoup beaucoup de pop de qualité aujourd'hui, je trouve. Et puis du coup, on prolonge une tradition qui est magnifique, qui consiste à s'approprier le matériau d'une musique largement diffusée pour en faire, pour essayer de continuer à en faire un développement personnel dans l'esthétique. Alors le jazz, beaucoup de choses sont dites et écrites sur cette terminologie pour savoir si ça représente quelque chose d'un peu communément compris. Bon, moi j'ai tendance à croire que oui, mais je ne veux pas trancher dans des débats qui sont parfois assez vifs. Je tranche mollement. Voilà, le jazz est encore un mot auquel j'accorde un certain crédit, et parce qu'il me semble se référer à une certaine tradition identifiable et qui me paraît fertile et surtout susceptible d'avoir un paquet de développement très personnel, quoi.
On a parlé de l'écriture, il y a aussi un domaine particulier que vous avez pas mal approfondi, c'est l'utilisation du Fender Rhodes. Comment, alors à partir du moment où vous avez mis le doigt dans l'engrenage de cet instrument, on arrive facilement, ou pas justement, dites-le nous, à, j'allais dire, un peu balayer de côté une sorte d'épée de Damoclès 70s liée aussi bien d'un côté aux Headhunters, Hancock, que à la scène de Canterbury en Angleterre, etc. Et pour arriver vraiment à s'en servir, à l'utiliser comme son véhicule à soi. C'était facile au début ou pas?
C'était, je dirais, ni plus facile ni plus difficile qu'au fond la problématique du piano. Avec toute la tradition du piano jazz que représente le piano jazz, et notamment par exemple spécifiquement la tradition du trio au moment où nous avions monté le trio Prisme à la fin des années 90. Mais c'est évidemment c'est une super question parce que le Rhodes est un instrument net récent et le Rhodes a été magnifiquement joué par ce que vous venez les courants un peu de esthétique que vous venez de citer. Disons que pour moi, ce qui était intéressant déjà, à la fin des années, au début des années 2000, en fait, le Rhodes revenait à la mode très furieusement après, on pourrait dire, une quinzaine ou une vingtaine d'années de
purgatoire.
D'une certaine façon, ouais, parce que c'est les années 80, là, on l'a vraiment radicalement rangé au placard. au profit de tout le monde, de l'échantillon, on pourrait dire. Et donc la technologie à laquelle on numérique à laquelle on croyait tant, non pas qu'elle soit morte, mais disons que elle s'applique pas exactement au même au domaine auquel on croyait qu'elle pourrait s'appliquer, je pense dans les années 80. Et par exemple, le Rhodes était un cas intéressant de l'électro naissante à mon sens, c'est-à-dire que moi j'avais le sentiment au début des années 2000 que on réutilisait le Rhodes mais pour 10% de ses capacités, c'est-à-dire j'entendais des sons jetés à droite à gauche, des espèces d'effets, etc. Et comme d'autres, parce que je n'étais pas le seul, je pense qu'il y a quand même un bon paquet de musiciens qui s'en sont rendus compte, on a décidé de se souvenir du fait que le Rhodes était un instrument bien plus complexe. Hein. C'était un vrai instrument complet, évidemment sur lequel on pouvait greffer beaucoup d'effets parce que la technologie du Rhodes, c'est-à-dire qu'il faut passer par une amplification, un câble, on rentre forcément dans un ampli à un moment ou à un autre. Mais c'est un instrument très, très électro-acoustique, je dirais. C'est une bonne manière de le définir d'un point de vue physique. Et en plus, la mécanique du Rhodes est exactement la même que celle d'un piano. Très proche, enfin disons très très proche. Hein. Il y a un toucher lourd, des marteaux qui, au lieu de taper sur des cordes, tapent sur des bouts de métal. Et voilà, et chaque bout de métal est prolongé d'un résonateur et d'un micro. Donc c'est ça ce qui en fait la spécificité par rapport à un piano. Mais quand même, la mécanique, il y a même une pédale de sustain, la mécanique est vraiment extrêmement comparable au piano. Donc, d'un point de vue technique, c'est quand même assez proche. Donc moi, j'ai pris le problème, entre guillemets, en étant conscient effectivement de ces espèces de d'ombres bienveillantes que représentait la musique à la fois de l'école de Canterbury et puis de la musique des grands maîtres du jazz des années 70 qui donnaient au jazz et au funk en fait un développement absolument royal. J'avais vraiment conscience de ça et disons je l'ai mis dans un contexte que j'espère un peu plus acoustique parce qu'au fond dans les projets que j'ai fait en quintette et en septette que je citais au début de notre conversation, au fond c'était une petite batterie, Franck Agulon joue une petite batterie très jazz, Vincent Artaud joue une contrebasse purement acoustique, voilà, et j'ai entouré tout ça de d'instruments très acoustiques, voilà, je dirais. Thank you.
rétrospectivement, comment vous regardez la saga Prisme?
Oh, avec beaucoup de bons souvenirs quand même. On a Prisme est vraiment ce qui m'a fait, je dirais, un petit peu démarrer dans ce drôle de métier. J'aime bien dire ça. Il faudrait que je sache pourquoi j'aime bien dire ça. Mais enfin bon, c'est quand même un métier un peu particulier, je trouve. Et c'était une belle aventure. C'était trois co-leaders, trois co-compositeurs. Enfin, on partageait vraiment beaucoup de choses. Et puis, je crois qu'on avait le feu, on avait envie que les choses bougent. On avait eu le bonheur de signer un contrat avec Blue Note qui était un peu une surprise presque pour nous également, même si on avait l'impression que, bon, on avait beaucoup travaillé pour ça. Mais quand même, c'était une belle surprise. On a tourné plusieurs fois aux États-Unis, dans un certain nombre d'endroits du monde, et beaucoup en France. Voilà, j'ai le souvenir d'années fastes. Et puis sur lesquels en plus on s'aventurait sur des terrains parfois rythmiques que je trouvais intéressants, pas avec des mesures un peu compliquées. Donc du coup, du point de vue purement technique, c'était intéressant aussi de porter ce propos et d'essayer de développer un peu d'agilité sur des trucs pas toujours communs.
Les pianistes, pas toujours, hein, vous en êtes la preuve, mais ont parfois tendance à mettre le trio piano basse batterie comme une sorte de nec plus ultra dans le jazz, enfin vraiment une sorte d'îlot à part. Comment vous voyez ça? Alors évidemment, votre carrière prouvait que non, il n'y a pas que ça dans la vie.
Ou du moins, je l'ai fait par exemple pour Prisme, qui est quand même un trio piano basse batterie, mais je l'ai fait pas complètement de façon traditionnelle, parce que j'ai tout de suite accepté la proposition de Christophe Vallem et de Benjamin Hénoc, qui étaient donc mes deux partenaires dans Prisme. Au moment où, même si j'ai eu l'initiative de les appeler pour commencer à faire quelques sessions chez moi et peut-être un premier gig, je crois, peut-être probablement sous mon nom, mais Ils m'ont proposé, est-ce que t'es d'accord qu'on partage le leadership? J'ai tout de suite dit oui. Tout de suite dit oui, parce que je trouvais ça d'abord extrêmement touchant de leur part, alors qu'ils avaient 10 ans de métier de plus que moi à l'époque, parce que moi je suis rentré dans le métier, donc j'emploie toujours ce terme un petit peu tard. Et donc j'étais extrêmement flatté de cette confiance qu'ils me faisaient. Donc du coup, le trio, moi je l'ai abordé de façon un peu, pas exactement de façon traditionnelle. Tout de suite, j'ai dit, bon, bah, si on poursuit l'aventure en trio, moi je suis ultra d'accord avec eux, il faut faire un truc partagé. Et on va trouver un nom de groupe, donc on a trouvé Prisme. Et on va tout partager. On va partager la réflexion, les compositions et puis un paquet d'aventures humaines, quoi, évidemment. Hein. Donc, est-ce que. Voilà, j'ai jamais véritablement encore pratiqué le trio de façon traditionnelle, si ce n'est de façon sporadique. Voilà, de façon. D'ailleurs, j'ai fait un concert en trio cet été avec une nouvelle formule. Je ne sais pas si je vais le pousser. On a joué plutôt précisément du répertoire. Voilà, j'ai plutôt envie de je vais réfléchir. Voilà, ça fait partie de mes réflexions actuelles. Quoi.
Et alors aussi, dans vos multiples activités, il y a pas mal de... Parfois, vous jouez les sidemen. Vous avez, tout au long de votre carrière, intégré les formations de nombreux musiciens. Ouais. Ça, vous le prenez comment à chaque fois? C'est vital, c'est nécessaire en termes de... élargir son champ de vision, s'enrichir, etc. Comment... Toutes les rencontres, j'imagine, n'ont peut-être pas la même valeur au bout du compte, mais...
Mais tout ça est...
C'est important
pour vous ? Absolument, c'est très bien formulé. Enfin, j'aime bien cette idée que ça revitalise. Ça, c'est... Moi, je suis assez attaché à cette idée-là. Bon, déjà, c'est une pratique assez... fréquente et souhaitée, au fond, dans le monde du jazz, que ça correspond à une certaine tradition, quand même pas mal de grands maîtres l'ont fait, de partager le fait d'avoir des projets en tant que leader.
On a l'impression que plus autrefois qu'aujourd'hui finalement, plus dans les années 50 ou 60.
Non mais forcément, de toute façon, il faut des sidemen, parce que quand on monte un projet en tant que leader, on a besoin de sidemen, donc il y a vraiment des gens qui ont... Il y a vraiment des gens qui, depuis toujours, se positionnent en sideman et sont des sidemen magnifiques, là j'en connais vraiment plein, et quelle beauté, quoi, pour certains, pour plusieurs d'entre eux, je pense, quelle magnifique carrière ils font comme ça. Et après, il y en a d'autres qui, à l'opposé du spectre, sont exclusivement leaders. Moi, j'aime bien le balancement entre les deux. J'aime beaucoup le balancement entre les deux. Moi, je me nourris beaucoup du fait je suis très heureux quand on m'appelle pour faire des choses. Et j'essaie de le faire avec le maximum de cœur possible et de disponibilité. Et je dois dire que jusqu'à présent, je me sens assez comblé par cet aspect-là de mes activités.
On a parlé de la musique des autres avec qui vous jouez ou avec qui, ou ceux qui jouent avec vous. Comment vous la dégustez, la musique des autres, mais pas celle que vous jouez, celle que vous écoutez.
Ah oui.
Est-ce que vous êtes un mélomane compulsif? Est-ce que vous avez des phases? Est-ce qu'il y a tout le temps de la musique chez vous? Est-ce que vous allez au concert? Comment vous fonctionnez comme...
Alors, moi, je dirais que je suis toujours assez consommateur de musique enregistrée. J'essaie de faire la part des choses entre, parce qu'on est quand même sur Cobuzz, donc je suis un dinosaure, j'assume mon côté dinosaure en continuant à acheter des disques.
Vous avez des 78 tours, c'est ça que j'allais vous dire.
Non, je crois que j'ai pas de 78 tours, par contre j'ai un certain nombre de vinyles. Ouais. Mais donc j'achète aussi de la musique en ligne. Je suis assez consommateur quand même de musique. Alors j'essaye par contre je prends du retard. Je suis un peu débordé, donc j'ai un paquet de choses à écouter. Et en fait, c'est une autre manière de répondre à votre question. C'est que au fond, je pratique pas la musique d'ambiance. C'est-à-dire que
quand vous écoutez, vous êtes
Sonore. C'est pas un fond sonore. Voilà.
Vous faites quand pas un risotto avec.
C'est la seule musique. Exception. Ça, c'est une très bonne remarque. Si il m'arrive de cuisiner des choses que je sais cuisiner, mais je suis vraiment pas très fort en cuisine. Vraiment.
Avec de la musique.
Mais avec un peu de musique. Mais si c'est des choses que sur lesquelles j'ai pas à me prendre la tête, voilà, à me penser. Bon, enfin voilà, vous voyez à peu près le propos. Voilà. Et effectivement, je trouve qu'on a aussi sur un autre plan, je trouve qu'on a la chance à Paris d'avoir un certain nombre de lieux où on peut écouter la musique. Il y en a pas assez. J'aimerais qu'il y en ait plus, notamment parce qu'il y a une flopée de jeunes musiciens extrêmement talentueux qui occupent la scène parisienne et qui rament un peu. Je le dis dans bien des occasions. Donc je crois qu'il faut plus de lieux de diffusion que nous avons. Mais il y en a quand même des beaux quoi, qui existent. Donc c'est vrai que je regarde ce qui passe et j'essaie de calculer un peu les moments que j'ai envie de passer à... Je suis assez attaché à la formule du club. Le club de jazz, c'est vraiment une belle formule. Je trouve qu'un paquet de gens qui se posent les questions de « il faut renouveler les modes d'écoute, le concert a un côté guindé, etc. » Ce sont des gens qui ne connaissent pas toujours, je trouve, ce qu'il y a de bien dans le club. Ou qui en ont une idée faussée, qui disent que bon, on est mal assis, Moi, j'ai entendu quand même des magnifiques concerts en club. Vraiment... Et en plus, c'est une belle, c'est un beau principe quoi. On est, il y a un certain nombre de gens qu'on, c'est une manière de revoir des gens qu'on aime, à la fois dans le public parce qu'on s'y retrouve sans s'être prévenu. T'es là, t'es venu écouter machin, ça. De revoir des gens qu'on aime sur scène et puis de boire un coup et de raconter des conneries en fin de soirée. Enfin, c'est quand même, je crois que. Wolinski disait, il n'y a pas de plus grand bonheur dans la vie que de passer des soirées à raconter des conneries avec des gens intelligents. Et je trouve que le club permet ça, le club de jazz permet ça. C'est une grande merveille, quoi.
dans vos écoutes discographiques, vous emmenez vos oreilles de temps en temps hors du territoire jazz?
Oui. Oui, avec parcimonie. Et les territoires sont très variés. Mmh. Les territoires sont très variés. Je reprends pied un peu dans la musique classique. Depuis certaines années, je dois reconnaître que la musique française m'a quand même beaucoup marqué et j'y remets un intérêt assez fort depuis 4-5 ans. C'est aussi lié au fait que il se trouve que j'ai une petite paire d'heures d'enseignement au conservatoire, au CNSM, qui est juste à côté, à la Villette, qui est juste à côté. Et là, il y a quand même un certain nombre de gens. D'abord, les élèves sont impressionnants, ils sont extrêmement forts, je trouve. Et puis, dans la maison, il y a quand même un certain nombre d'experts qui sont quand même très impressionnants du monde classique. Enfin, j'ai vraiment fait des rencontres assez fortes. Et voilà. Et puis après, c'est exactement. Thierry, par exemple, c'est quelqu'un que j'ai pas vrai, bon, que j'ai retrouvé au conservatoire, mais je l'avais pas rencontré par le truchement du conservatoire. J'étais tombé sur ce mec-là par le hasard de mes curiosités, je dirais. Je l'ai pisté. C'est-à-dire que j'ai été le voir en concert plusieurs fois, puis à un moment j'ai voulu l'aborder parce que je trouve que Thierry Escaich, c'est quand même un maître de l'improvisation dans la grande tradition classique au clavier, à l'orgue notamment, au piano aussi, et puis je trouve qu'il a une patte d'écriture qui moi me touche. Je suis très conscient des guerres de chapelle qui agitent le landerneau de la musique contemporaine, mais je suis pas suffisamment expert. Je me fie complètement à l'instinct. Je suis tombé sur un mec qui me touche vraiment. Voilà, dans la poste. Voilà. Et puis bon, voilà, il n'y a pas que le monde du classique et contemporain. Au gré des opportunités, j'ai aussi écouté. Par exemple, je me suis beaucoup nourri. À un moment, j'ai eu grâce à l'harmoniciste Olivier Kerourio, qui est réunionnais, j'ai passé plusieurs séjours, dont un séjour d'un mois à travailler avec Daniel Warraud, qui est quand même une figure extraordinaire de la musique maloya. Alors là, moi, j'ai appris un nombre de trucs, pas possible, quoi. Bon, par le personnage et aussi purement musicalement, hein, parce que la tournerie rythmique du maloya, il faut y aller. Et c'est vraiment super, quoi. C'est très organique, c'est très naturel, très, très sophistiqué en même temps. Enfin, c'est très beau.
J'imagine que vous allez emmener sur scène ce quartet de Go. Vous avez d'autres envies déjà en tête? Ça grouille dans votre tête pour la suite, aussi bien au disque qu'à la scène?
Alors,
vous avez parlé d'un trio aussi, notamment?
Oui. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai dans ce que je pourrais dire en résumé de ce qui va me préoccuper un peu dans les mois qui viennent. D'abord, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est d'emmener le quartet sur la route. Ça, c'est vraiment une formule qui est faite pour jouer maintenant, et je pense qu'on en a tous les quatre vraiment très envie. Donc, il y a pas mal de concerts ce trimestre, et évidemment, je compte sur plein d'autres après. Je commence ensuite une résidence dans une scène nationale. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis l'heureux gagnant d'une résidence à l'Apostrophe, qui est la scène nationale de Sergi Pontoise, et qui m'a demandé un certain nombre d'activités qui vont être l'occasion précisément de faire revivre le trio que j'ai appelé juste un peu pour la circonstance cet été, qui est composé de Sylvain Romano à la contrebasse et Tony Rabeson à la batterie. Tony est un personnage absolument extraordinaire, un batteur malgache que je redécouvre parce que je l'ai beaucoup écouté avant d'être musicien, enfin ado et jeune adulte, je dirais, un type que j'admire profondément. Voilà, donc on va faire quelques concerts dans le cadre de cette résidence, et puis surtout la résidence me demande ce qu'il est convenu d'appeler une création. Alors ça, c'est vraiment le vocabulaire de la musique contemporaine, dans lequel nous, on rentre parfois un peu aux chausse-pieds douloureux. Mais là, je leur ai proposé un truc qui marche, et qu'on va faire le 19 avril au Théâtre des Louvrets à Pontoise, le 19 avril 2013, c'est un peu loin, mais c'est j'ai monté un orchestre de 12 musiciens, que j'ai appelé un médium ensemble. C'est pas tout à fait un big band, donc j'ai appelé ça un médium ensemble. Et je voudrais écrire pour cet orchestre. C'est la première fois que je me frotte à une écriture pour 12 musiciens, et je dois dire que je suis assez excité. Je vais essayer de faire en sorte aussi, alors je vais respecter le deal qui est, il faut que la première fois qu'on joue ce répertoire, ce sera le 19 avril au Théâtre des Louvrets à Pontoise, mais après si on peut le faire vivre, l'enregistrer, éventuellement le jouer. Alors c'est pas le genre de truc qu'on en 12 musiciens à mettre sur la route, j'ai quand même le sens des réalités, c'est pas ça.
En 2012, c'est pas évident. C'est,
hein. Voilà, en plus, exactement. Non, je m'estime déjà vraiment très, très bien servi, donc je suis aussi très conscient de ça. Maintenant, ce que j'aime aussi, c'est pas faire les choses juste une fois. C'est en ça où je n'embrasse pas complètement la culture de la musique contemporaine qui est extrêmement boulimique de commandes et d'écriture. Enfin, boulimique est un terme pas très sympa, mais je sais qu'il marche beaucoup. Si on me demande de créer ce répertoire, donc de faire ce répertoire, de le créer, c'est-à-dire de le jouer la première fois, moi c'est sûr que je vais avoir envie de le jouer plusieurs fois de suite, de laisser une trace et de faire en sorte qu'on se l'approprie. Il y aura toujours une dimension d'improvisation, bien entendu, parce qu'on fait du jazz. Donc, il faut que le truc gagne et une patte qui s'enrichisse au fil des concerts. Donc, je ne vais pas passer d'un coup d'un seul à un autre truc une fois qu'on aura fait ce truc-là. Et dernier truc que je peux mentionner, c'est que, un peu hors de toute actualité, on se régale à faire des concerts en duo avec David Elmalek. On a fait plusieurs, souvent dans des petits lieux, et on vient de jouer à Chartres dans un magnifique petit lieu au parvis de la cathédrale. C'est pour nous une occasion de nous retrouver sur des morceaux qu'on commence à connaître bien, précisément à la fois des standards et des choses des compositions qu'on a jouées ensemble dans d'autres contextes. Et donc ça, j'en parle parce que au fond, bon an, mal an, il y a toujours des occasions que je prends de qui nous tombent dessus et qui sont généralement des super occasions, quoi. Voilà.
Avant de découvrir ces super occasions et surtout ce presque grand orchestre, presque big band,
ouais.
On pourra toujours écouter donc Go qui vient de paraître chez Plus Loin Musique. Merci Pierre de Bettman.
Merci beaucoup.
Thank you.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.